Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons continuer de feuilleter le petit manuel du toponymiste occitan de Jean Rigousse et qui est publié par Nouvellum et au Périgord en 2022. Voilà. C'est un ouvrage qui est publié également avec l'aide du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour son auteur, Jean Rigousse, alors il est né en 1938 dans une famille quercinoise. Jean Rigousse a parlé l'occitan avec ses parents dès son enfance. Agrégé de lettres classiques et titulaire d'un DEA de géographie historique, il a enseigné le français et l'occitan à l'Académie de Bordeaux. Auteur de la méthode d'apprentissage Parli Occitan, il est un des fondateurs de l'école occitane d'été. Il a animé divers cours d'onomastique et écrit des articles, des chroniques de toponymie. Il est membre de la Société française d'onomastique. Alors voilà pour l'auteur. Alors on va reprendre un peu ce livre. Alors, il y a quelques chapitres. Il y en a un qui s'intitule « Quelle sorte de toponyme allons-nous rencontrer ?» Bon, ça fait un peu quand même, comment je pourrais dire, professeur. Voilà. Alors, quand vous aurez terminé, alors je lis le texte, quand vous aurez terminé, provisoirement, une recherche jamais achevée, votre récolte de toponymes, vous aurez constitué un corpus. Vous aurez essayé de classer votre récolte sur fiche, sur l'ordinateur, en indiquant la localisation, la forme orale. Si vous avez eu la chance d'en obtenir, les variantes, plus tard, vous rechercherez les formes anciennes et les attestations. Mais ces toponymes sont bien divers, que pouvez-vous attendre à trouver? Alors d'abord, il y a les appellatifs, c'est-à-dire des noms communs employés pour nommer un lieu, pour le désigner d'une façon plus ou moins descriptive, plus ou moins motivée. Maintenant, la motivation a pu quelquefois être plus évidente, mais la végétation, les cultures et même les bâtiments ont pu changer. Vous les reconnaîtrez à l'emploi de l'article. En principe, il est parfois omis. Ben oui, en Occitan, on ne met pas toujours les articles. Alors, il y a un autre chapitre, la recherche sur les cartes. Alors, le toponymiste a sans cesse recours à différents types de cartes. Il y a les cartes antiques. Les cartes antiques existent depuis l'Antiquité, mais les plus anciennes sont trop schématiques. La seule qui est parfois citée est la fameuse table de Puntucher, du nom de son découvreur, qui est une copie, deux copies, deux copies, deux copies, voilà, alors d'une carte romaine. Un plan simplifié, très étiré, le parchemin n'a que 35 cm de hauteur de l'Europe. Alors bien sûr, le parchemin de l'Europe qui n'a que 35 cm de hauteur. À quelques incertitudes, les cartes du Cy, c'est-à-dire du Quercy, sont positionnées au centre de la Gaule et la situation de Diolinum fait encore l'objet de discussions. Et puis bien sûr, il y a les cartes anciennes, beaucoup de cartes anciennes, ou provinciales peuvent se trouver sur un site carte ancienne, mais elles ne sont guère détaillées. On peut parfois examiner un détail intéressant. De cartes détaillées du XVIIIe siècle sont couramment consultées. Alors bien sûr, il y a la carte de Belém. Alors Belém, on en reparlera la semaine prochaine. Alors la carte de Belém couvre une bonne partie de l'Aquitaine, autrement dit la Guyenne. Elle fut éditée de 1783 à 1793. À l'échelle 1,43 millième, elle est généralement assez claire, indique de nombreux toponymes, et c'est souvent la seule forme ancienne que nous avons pour eux. Vous remarquerez que les arbres, alors bien sûr, il y a une petite reproduction d'un morceau de la carte. Vous remarquerez les arbres finement dessinés, des ombres qui soulignent le relief, quelques indications de chemin. Malheureusement, Belém manqua d'argent pour achever son travail qui fut repris et souvent copié par Cassini. Alors, bien sûr, les cartes de Cassini, ce sont les cartes anciennes les plus connues. Alors, la carte de Cassini, on va en parler, on va en dire deux mots. Le roi Louis XIV avait décidé d'établir une carte générale de la France avec la plus grande exactitude possible. Et pour cela, il fallait avoir fait la triangulation géométrique du territoire à partir du méridien de Paris, ce qui prit du temps. Seulement au XVIIIe siècle, les Cassini. Alors les Cassini, il y a quatre générations de cette famille de cartographes Et les plus connus, bon, ce sont les deux derniers, il y a César François et son fils Jean-Dominique, qui y travaillèrent. Les relevés commencèrent en 1744 et durèrent jusqu'en 1783. En 1756, les premières cartes, il y en a 180, furent présentées au roi. Ces cartes sont à l'échelle d'une ligne pour 100 toises en système métrique. Alors on va continuer un peu cette lecture. La carte est très détaillée avec beaucoup d'indications graphiques, codées. Vous pouvez savoir en un coup d'œil si la paroisse possède une église et un château, si l'église est ruinée ou non. La légende, la page suivante, vous précise tous les détails. Umberto Eco s'extasiait sur cette image du paysage précise et évocatrice. Certaines cartes de Cassini est une mine pour le toponymiste et fournit parfois une seule forme ancienne connue pour des noms de lieux habités au XVIIIe siècle. Mais il faut l'utiliser avec prudence, certains noms mal recopiés. Alors j'ai trouvé un tous trineu en Lot-et-Garonne, qui était en fait l'Ostalneu, c'est-à-dire la maison neuve, ou mal placé à Lot-et-Garonne, toujours le village de Nospec, se trouve deux fois le graveur l'a mal placé, puis mis à bonne place en oubliant d'effacer la forme située. Alors, bien sûr, la IGN a étudié une version de papier, vous pouvez la consulter en version numérique sur son site, la France entière tient sur deux CD. Alors, bon, bien sûr, il y en a d'autres, il y a les cadastres, il y a le cadastre napoléonien. Alors, le cadastre napoléonien était quelque chose d'assez important, parce que ça servait aussi à payer les impôts. Le cadastre napoléonien, décidé par la loi du 15 septembre 1807, il était conçu comme un instrument juridique pour assurer la propriété des citoyens et fiscale, pour calculer les impôts de chacun, comme je disais. Alors, réalisé avec une grande précision, il comporte de nombreux noms et parfois des variantes. C'est un bon outil de recherche, conservé parfois dans les mairies des communes, mais le plus souvent dans l'archive départementale. Attention, c'est très fragile. Heureusement, la plupart de ces cadastres sont maintenant numérisés. Alors, bien sûr, les cadastres modernes, il y a les cartes d'état-major, il y a les cartes de l'IGN, et bien sûr, encore d'autres cartes. On va abandonner un peu cela. Et puis, il y a un autre chapitre intéressant qui s'intitule « Proposer une étymologie ». Il s'agit d'une étape importante de la recherche. L'étymologie est la science de la filiation des mots, c'est d'après Étiemble. C'est l'étude de la généalogie d'un mot et suivant ses formes anciennes dans une langue depuis le mot, d'où il provient le plus souvent dans une autre langue plus ancienne. Et l'on fait aussi la comparaison avec d'autres mots de même origine dans d'autres langues. Ce mot vient du grec « étymos verita », qui veut dire « véritable », parce que les Grecs espéraient découvrir le véritable sens du mot. Ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a, bien sûr, il y a l'historique de la recherche, et puis, bien sûr, des fois, il faut quand même faire attention à ce que l'on peut y trouver. Alors, on va continuer un tout petit peu. L'impasse AA, on en reparlera. Alors, AA, c'est écrit AA, chacun un point d'exclamation. AA est en réalité AA, si ça se tient, si ça vous aide. Peut-être pas tellement quand même. Voilà, alors, on va continuer. Il y a des noms du même espace géographique. Alors, les cartographes ou les scribes, curés, secrétaires de mairie ont souvent leur idée personnelle sur la matière d'écrire les noms occitans. Il y a même des modes locales à toute époque, comme par exemple les noms A qui sont écrits A-C-Q. Alors il y a Péchac, Pontac, etc. dans le sud de l'Aquitaine. En Périgord, région voisine, le groupe A, S et Aï sont souvent écrits E-Y, ce qui indique une prononciation locale. C'est vrai qu'en Sarlade et tout au moins, on prononce c'est Y, on dit Beynac, Castelnau, Feyrac, etc. Alors, je ne sais pas si ça s'écrivait comme ça avant. Alors, ce qui indique la prononciation locale, quand on a trouvé l'Eifon, l'Eigonie, l'Eiforêt, on comprend mieux l'Eissal, l'Eicur, les Eisy, l'Eissar, etc., etc. Je connais une personne qui habite l'Eigorie, qui se trouve du côté pas très loin de Périgueux. Alors, de notre côté, en étudiant le voisinage d'un nom sur carte ou cadastre, on peut parfois l'expliquer comme cela, déjà rencontré dans un extrait de carte précédente. Le ferme est appelé le Purgatoire, un nom assez curieux, mais en dessous, dans la vallée, une autre ferme s'appelle l'Enfer, ou l'Inferne, ce qui signifie seulement le lieu en contrebas. Le Purgatoire est peut-être une dénomination dérivée avec ironie de l'autre. D'autres purgatoires pouvant avoir certes une autre explication ailleurs, l'Enfer suscitera le nom de paradis pour un lieu dit voisin situé en hauteur. Alors, bon, dans ce livre, évidemment, il y a quand même aussi pour les néophytes. Pour les néophytes, il y a quand même quelques conseils et interventions. Voilà ce qu'on nous dit, des municipalités ont parfois demandé des conseils pour nommer un quartier nouveau, de nouvelles rues, surtout actuellement car la poste exige qu'il y ait partout des noms de rues, places, chemins. Ces municipalités demandent souvent de tenir compte de la toponymie ancienne du lieu. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Les communes occitanes ont souvent désiré se doter des panneaux de signalisation en occitan, et ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes. Que faire lorsque la forme occitane est tout à fait semblable à la forme française? C'est le cas par exemple de Vitrac, à la commune de Vitrac, qui a un pont tout neuf dont on a parlé il y a peu. Alors comment faire quand la forme écrite est bien différente et que les gens ne savent pas prononcer comme il faut ce nom récité? Il y a les Fieux, il y a bien beaucoup de noms comme ça. Il faudrait dans ce cas prévoir de faire un peu d'éducation auprès du public local, surpris par des graphies insolites pour lui, en essayant de trouver la façon la plus utile et agréable de présenter nos propositions. L'IEO, l'Institut d'études occitanes, autrement dit, a consacré un colloque à Auch en 2007 aux difficultés et enjeux de la signalétique occitane. Alors, il y a le service de cartographie, ils font parfois rarement des erreurs dans l'écriture des toponymes. Ils sont heureux de pouvoir corriger ces formes fautives. Il faut appeler le rôle important de M. Pégorier, quand il était président de la commission de toponymie à l'Institut géographique national, il regrettait une transcription erronée, une adaptation phonétique, voire une francisation abusive. De nombreux exemples de ces transformations regrettables figurent malheureusement sur des documents cartographiques anciens. Voilà. Alors, le public, quand il nous connaît, pose beaucoup de questions. Origine, explication d'un nom de lieu, conseil pour renommer une maison ou une entreprise, et même une fois pour choisir le prénom d'un nouveau-né. Il faut répondre, même quand nous devons avouer que nous ne savons pas exactement. Alors, pour conclure, il y a bien sûr un chapitre. Et pourquoi faisons-nous de la toponymie? Il est temps de nous poser la question. Bien sûr, nous faisons de la toponymie pour le plaisir de la recherche, pour le plaisir encore de découvrir des choses surprenantes, de savoir que nous faisons avancer, si peu que ce soit, la connaissance. Bien sûr, nous aimons publier les résultats de nos recherches, les présenter au public dans des conférences, des colloques, mais que voulons-nous, fin finale, quelles sont nos raisons profondes? Alors nous découvrons, nous faisons connaître, nous redonnons vie à maintes traces du passé, de le passé de la langue, puisque la toponymie est un conservatoire de mots perdus. Le passé du territoire, avec ses reliefs, ses cours d'eau, ses végétations, qui a peut-être changé à travers les siècles. Passé des hommes pour leurs travaux, leurs métiers, pour leurs noms, des noms, prénoms, surnoms, parfois qui rappellent des familles disparues, des hommes et des femmes effacés de la mémoire du monde, qui n'ont même pas, le plus souvent, une antique pierre tombale et des noms qu'ils avaient donné à quelques champs, quelques combes, et ou à quelques bois, dans les seuls monuments qui nous ont laissé trace humble de vie oubliée dans l'obscurité des siècles. Alors, c'est là que nous commençons à voir qu'au-delà du travail de relevé, de recherche et de publication, nous faisons quelque chose qui va plus profond, jusqu'aux racines d'un peuple en quête d'un patrimoine et d'une identité. Ces gens qui autrefois nommaient la terre à leur manière sont les nôtres, et par l'IEM et par l'esprit, et nous continuons leur œuvre en redisant leurs mots, en regardant les paysages, même s'ils sont ponctués des noms qu'ils avaient choisis, certains D'autres lieux ont bien compris la portée de l'enjeu de ce travail quand ils ont voulu dompter et soumettre ces peuples conquis. Ils ont changé leur nom, les noms des lieux, les noms des personnes. Et l'exemple, ben, nous en connaissons quand même quelques-uns. Alors, pour ces exemples, ben, ma foi, on va attendre la semaine prochaine. Et je vous souhaite, ben, je crois qu'il ne fait pas très froid, donc une bonne semaine. Voilà, au revoir et à bientôt.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.